Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Je suis infiniment heureuse de vous retrouver après ce bel été. J'espère qu'il a été doux pour vous, été qui se prolonge et c'est tant mieux. Pour commencer cette nouvelle saison 2020-2021 de Délivrez-vous pour ces deux ailes, eh bien nous allons nous attaquer à dirais-je, une question universelle, mondiale, éternelle sur le bonheur. Et pour nous parler de ce livre sur l'histoire mondiale du bonheur, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un personnellement que j'apprécie. J'ai toujours plaisir à l'écouter, à le voir, à l'entendre sur les différentes chaînes et radios. Il a participé à ce livre avec 60 spécialistes de tout ordre. Et nous allons donc voir ce qu'est le bonheur hier, aujourd'hui et demain, je l'espère. Bonjour François Durpère.
Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation.
Voilà, donc pour ce livre, l'histoire mondiale du bonheur aux éditions du Cherche Midi. Alors vous êtes agrégé et docteur en histoire, vous êtes également maître conférencier je crois à Cergy Pontoise et je le disais, on vous voit fréquemment et on vous entend sur les chaînes et radios pour vos analyses toujours je trouve pointues et toujours très intéressantes. Alors j'ai envie de vous poser une question François Durpère, est-ce que le bonheur et être heureux, est-ce que ce sont deux choses différentes ou analogues?
Alors, pour celui qui commençait à écrire cette histoire du bonheur, c'était pas tout à fait la même chose, être heureux et le bonheur. Parce que ce que l'on voulait faire, c'était pas une histoire de l'idée de bonheur. C'est vrai, quand on parle de bonheur, qu'on utilise le nom bonheur, hein, la définition latine, on la connaît, c'est la bonne fortune, la chance favorable donnée par les dieux à une initiative humaine. Oui. On va vers l'idée de bonheur, vers l'idée philosophique de bonheur. Et ça aurait été donc un livre, un autre livre sans doute, qui aurait pu s'appeler « Histoire mondiale de l'idée de bonheur ». Là, on a voulu commencer par être heureux. Ouais. Être heureux, c'est-à-dire concrètement ce que ça voulait dire qu'être heureux pour un Peul dans l'ouest de l'Afrique, pour un Amérindien, pour un Français du XVIe siècle. Donc c'est vraiment une dimension plus concrète et j'ai demandé à tous les historiens qui ont participé à l'ouvrage d'être dans ce concret. Voilà, de nous expliquer ce que c'était qu'être heureux, par exemple, pour un Romain. Et pas seulement ce qu'était le bonheur au temps de Rome. Mmh. Voilà, il y a cette petite nuance qui, je pense, donne une couleur un peu différente à l'ouvrage qu'on a réalisé.
C'est vrai. Alors, il y aura plein de choses à dire et la demi-heure ne suffira pas, il faudrait des heures, mais on va essayer d'être concret en étant précis. Alors moi, ce qui m'a étonné, j'ai trouvé ça absolument formidable parce que ça me passionne à titre personnel, mais je suis sûre que les auditrices, auditeurs aussi, c'est qu'on a cherché à savoir si Cro-Magnon avait trouvé le bonheur.
Exactement, c'était là. C'était le premier chapitre, hein, il fallait commencer par la préhistoire.
Oui.
Et Cro-Magnon était-il heureux ou plus heureux ou moins heureux que nous? C'est une belle question. Et évidemment, j'étais heureux de ne pas y répondre moi-même, mais de confier ça à un grand paléontologue, Jean-Paul Demoule, hein, qui est un paléontologue très, très, très connu à travers le monde et qui s'est un peu attelé à cette question en cherchant des indices. Parce qu'évidemment, c'est pas facile de faire l'histoire des émotions.
Alors il y a les peintures rupestres, qui peuvent.
Et oui. C'est un indice de se dire bon qu'est-ce qu'ils peignaient, donc qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. Il y a aussi la manière de, on sait qu'ils travaillaient peu. Hein, les hommes de la préhistoire avant l'agriculture, c'est 4 heures, 5 heures de cueillette et de pêche. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Bah, évidemment, ils avaient beaucoup plus de temps de loisirs. Oui. Là aussi, c'est un indice. Découvrir les premiers cimetières et ne pas y trouver des traces de hiérarchie sociale. Vous savez, ces cimetières où plus tard on trouvera de l'or sur les tombes et puis d'autres tombes totalement nues. Là, ça voulait dire qu'il y avait une hiérarchie sociale. Mais avant, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Il y a aussi des chasseurs-cueilleurs qui sont nomades, qui ne mettent pas de limitation à leur champ, comme le feront ensuite les agriculteurs. Donc on n'a pas d'hiérarchie sociale, pas de guerre de territoire, pas de guerre, on le voit bien, peut-être de la violence interpersonnelle, mais pas de grands conflits. Et bien donc Jean-Paul Dumoule nous dit, cette idée d'âge d'or qui est très mythologique, qu'on était plus heureux avant, mais peut-être qu'elle repose sur des réalités scientifiques. En tout cas, comme vous, j'ai beaucoup apprécié moi, le premier chapitre
sur
Était-on heureux à l'époque de la préhistoire.
Oui. Alors justement, pour rappeler, vous parliez donc de ce paléontologue. Alors le livre, bien sûr, c'est pas moins de 60 spécialistes, entomologistes, chercheurs, paléontologues, psychologues, philosophes, etc. C'est vraiment un panel d'une richesse extraordinaire. Et alors, on s'attaque bien sûr au chercher le bonheur. Alors la Chine ancienne, sous l'Antiquité, les Japonais. Alors moi, il y a un chapitre qui m'a frappé quand on parle du bonheur concernant les Indiens, les Indiens d'Amérique. Et dans le chapitre, il est dit, oui, mais alors, chercher le bonheur, quand on voit la colonisation, le Nouveau Monde, tout ce que cela a engendré de massacres, malgré tout, en se penchant avant, on peut penser aussi que les Indiens, avant tout ça, pouvaient avoir aussi une forme de bonheur.
Oui, bien sûr, c'est intéressant de voir la diversité du bonheur, parce que c'est vrai que le bonheur est quelque chose d'universel. Hein.
Oui.
On voit, c'était quand même la première découverte de l'ouvrage. Les historiens ont tous dit, je trouve une définition de bonheur, les uns en Chine ancienne. Le mot fou, par exemple, dont parle Han Shan pour la Chine ancienne.
Oui.
Les autres disent, mais c'est plus proche d'harmonie dans ma langue. Quand je regarde, par exemple, le bonheur chez les Amérindiens dont vous parlez. Donc il y a ce caractère universel, mais il y a aussi une singularité de la manière d'être heureux. Et vous avez raison, chez les Indiens, on a une notion qui est très proche de l'idée d'harmonie, de relation à son environnement minéral, végétal, animal, et donc une conception du bonheur et une pratique du bonheur qui est très différente de celle des Européens de l'époque. Et donc, évidemment, un choc un peu des cultures, des civilisations du bonheur entre cette Europe qui arrive, qui entre guillemets découvre l'Amérique et qui découvre en Amérique cette idée si différente du bonheur.
Oui. Alors c'est Noah Harari, j'espère que je ne défends pas trop son nom, fait la remarque que finalement les historiens ne se sont jamais vraiment penchés sur le bonheur, sur l'idée du bonheur, sur la relation bonheur au travers des peuples, au travers des temps. Ce sont les philosophes, finalement, que ce soit Montaigne, Descartes ou Spinoza, ou même on va jusque au dictionnaire de Diderot, de par la définition, que là on s'attarde sur le bonheur. Mais sinon, dans l'histoire même, on ne s'y attache pas tellement.
Oui, alors il y a effectivement plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, les historiens, pendant très longtemps, ne se sont pas penchés sur le bonheur, j'allais dire même sur la tristesse.
Oui,
ou sur plein d'autres choses.
La mélancolie, la nostalgie, voilà,
ouais,
tout à fait.
C'est très compliqué d'aller chercher l'émotion, comment on aimait, comment on était heureux, comment on était malheureux, il y a des milliers d'années, c'est très compliqué.
Il
y a vraiment la difficulté épistémologique. Et je suis très heureux d'avoir pu avoir la préface d'un monsieur, un historien qui a ouvert ce domaine-là de l'histoire des émotions, qui est Alain Corbin. C'était vraiment une joie d'avoir sa préface. Mais c'est vrai que c'est une complexité. Et puis, la deuxième chose, et c'est vrai, vous avez raison de le souligner, c'est qu'on n'a pas toujours eu conscience du bonheur. C'est-à-dire que ce sont effectivement plutôt les philosophes ou les grandes spiritualités qui se sont penchées sur cette question-là. Et on n'a pas eu, comme dans la société contemporaine, autour de soi toujours le rappel qu'il fallait être heureux. Ça, c'est vraiment un trait contemporain du 21e siècle ou de la fin du 20e siècle. Une sorte d'injonction à être sans cesse heureux. Regardez par exemple la publicité, regardez les affiches autour de nous et les écrans. Achetez cette voiture, vous allez être plus heureux. Faites ce voyage, vous serez plus heureux. Adoptez cette formation et vous allez découvrir le bonheur en plus que de réussir à l'école. Le mot bonheur, effectivement, un mot qui est présent partout dans notre société aujourd'hui, il ne l'a pas toujours été. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on en parle plus, on l'est plus.
Oui.
Est-ce que ça voudrait dire peut-être l'inverse, que lorsqu'on en parlait un peu moins, on était peut-être un peu plus heureux, que lorsqu'on le recherche constamment, ça peut aussi générer beaucoup de frustration, de se dire, est-ce que je suis vraiment heureux, à quel degré je suis heureux, suis-je plus heureux ou moins heureux que mes voisins, voyez, c'est aussi quelque chose qui peut être porteur, générateur de frustration.
Oui. En lisant le livre, il y a une phrase qui me revenait, enfin le titre d'un livre qui me revenait assez, d'une manière récurrente à l'esprit, c'était « À la recherche du temps perdu ».
Bien sûr, oui.
Et je me suis dit justement, en vous écoutant de parler cette modernité, c'est une forme de course au bonheur, je veux être le plus heureux, je veux être plus heureux qu'hier, que mes parents, mes grands-parents, etc. Mais aujourd'hui, je me dis que il y a une forme de fuite en avant. Et est-ce que vraiment on est heureux dans cette forme de fuite en avant? Toujours plus, toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus beau. Et finalement, est-ce que l'on sait se contenter de ce que l'on a et cette fuite en avant, finalement, est-ce qu'on ne perd pas la notion du bonheur, justement?
Effectivement, c'est déjà un des enseignements d'ouvrage, c'est-à-dire que le bonheur n'est pas dans la quantité de plaisir accumulé. Et c'est effectivement quelque chose que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Le bonheur n'est pas une quantité, n'est pas une accumulation de possessions. D'ailleurs, certains économistes nous l'expliquent, qui montrent que la courbe d'amélioration de la croissance, de progression d'un bien-être matériel, ne correspond pas à la courbe de satisfaction générale des gens sur leur propre vie.
Ouais.
Alors certes, elle y correspond pendant un temps, c'est-à-dire que, pour faire très simple, l'argent fait le bonheur, quand il s'agit de sortir de la pauvreté, évidemment, être en meilleure santé, manger à sa faim.
Avoir un toit sur la tête. Avoir un toit sur la tête.
Et, la sécurité nécessaire. Mais après, à un certain moment, ça se déconnecte. Ça se déconnecte et on voit bien que le bien accumulé supplémentaire n'apporte pas plus de bonheur. Et le bonheur, il est ailleurs.
L'argent ne fait pas le bonheur.
C'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. Ou alors, il faut transformer cet argent en expérience de vie. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir un peu plus d'argent, eh bien, plutôt que d'acheter une troisième voiture, eh bien, transformez cet argent en expérience de vie. Apprenez, à naviguer, partager quelque chose avec des amis. Parce que cette expérience de vie, en plus, elle va être immédiatement un bonheur, mais elle va être un bonheur durable, un bonheur dont vous allez pouvoir vous souvenir
quand c'est une
expérience de vie. Alors que si c'est une possession, ben cette possession, comme toutes les possessions, elle va rouiller. Elle va perdre de sa valeur au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, l'un des enseignements, parce que c'est vrai qu'on a des choses très différentes lorsque on regarde le chapitre sur ce que c'est qu'être heureux au XIIe siècle en islam et ce que c'est qu'être heureux en Afrique du Sud au XVIe siècle, c'est très différent. Mais il y a des petits enseignements qui courent tout à travers l'ouvrage et qui peuvent peut-être nous donner des leçons très modestement pour notre vie aujourd'hui dans notre période donnée où cette idée de bonheur, on la retrouve dans tous les ouvrages de développement personnel. Quand vous regardez dans les librairies, vous avez maintenant quasiment un endroit consacré à ce bonheur. Mais est-ce que effectivement le bonheur, c'est quelque chose qu'on gagne de manière, par une méthodologie, c'est pas forcément sûr.
Oui. Alors il y a également un chapitre qui m'a qui m'a intéressée, c'est Saint Augustin par rapport au bonheur, par rapport à son rapport à Dieu aussi. Il détournait les yeux des plaisirs, parce que s'il s'attachait à ce genre de plaisir, son regard était détourné de Dieu. Et donc il y a tout un, comment dirais-je, tout un élément là, je dirais, philosophique de Dieu par rapport au bonheur. Est-ce que finalement Dieu ne nous a pas donné des émotions pour nous détourner de lui?
Alors c'est vrai que c'est très intéressant ce chapitre oui. consacré alors à Dieu. Là il y a un chapitre consacré au Moyen-Âge chrétien,
oui. Oui.
Hein, qui est la cité de Dieu, qui est Augustin, il y a également Saint Thomas, et c'est Ruedi Imbach, un grand médiéviste, oui. qui s'est coltiné à ce chapitre complexe sur le bonheur dans ce Moyen-Âge chrétien, parce que de prime abord, on a l'impression que le bonheur, il n'est pas de ce monde pour les chrétiens, en tout cas tel qu'on le conçoit au XIIe siècle. Le bonheur, il est plutôt de l'ordre de la vita aeterna, de la vie éternelle.
Oui. Mmh.
Il faut la résurrection de la chair pour accéder au bonheur.
Oui.
Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, eh bien, on nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est
leur
à
appartient.
Eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
»
Vous voyez, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. »
Oui.
Donc le bonheur, il est au futur. « Heureux les tolérants, car ils hériteront la terre.
»
Donc on est dans un bonheur, mais qui sera pour demain. On n'est pas dans un bonheur aujourd'hui. Et le bonheur dépend de notre humilité, de notre capacité à être au plus proche de ce message chrétien et des valeurs qu'on nous demande d'adopter.
Mmh.
Alors ça, évidemment, c'est pas, si vous voulez, le bonheur tel qu'on le conçoit aujourd'hui, même tel qu'on le concevra à partir de la Renaissance.
Oui.
Mais, nous dit Saint Thomas, il y a quand même des bonheurs présents. Par exemple, le bonheur d'aimer. D'aimer et d'être aimé. Alors, il ne pense pas forcément à l'amour passionnel, il pense à l'amour des amis. Il le voit très très proche de l'amour que Dieu nous demande d'adopter. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est présent. On n'a pas besoin d'attendre la résurrection de la chair pour partager des pensées avec un ami, pour partager des moments de joie avec un ami. Donc, il y a quand même, vous voyez... pas caricaturer cette période médiévale, d'autant plus qu'il y a d'autres spiritualités qui naissent pendant cette période,
oui.
la spiritualité musulmane,
tout
qui a
fait.
Une conception du bonheur très différente à l'époque, et évidemment le judaïsme, qui est beaucoup plus évidemment ancien, mais
ancien, oui.
qui est une spiritualité forte de cette époque, où le bonheur est aussi dans la joie de l'esprit,
oui.
dans le jeu de mots, l'humour, la réflexion sur les textes. Donc il y a des bonheurs qui sont des bonheurs très présents. Donc il ne faut pas nécessairement caricaturer ces 1000 ans de Moyen-Âge en disant que ce sont des siècles obscurantistes
oui.
où le bonheur était totalement absent. Il n'y a qu'à voir tout simplement les fêtes au Moyen-Âge.
Tout à fait.
On aimait être heureux très concrètement.
Oui. Alors il y a les Maoris, alors c'est pas dans le livre, ça aurait pu l'être, société polythéiste où le bonheur, la joie, c'est dans un buisson, c'est dans le soleil, dans la terre, dans une feuille, dans un brin d'herbe, dans l'esprit, dans la rencontre. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai lu un livre récemment justement sur ça qui alliait avec votre livre, et j'ai trouvé ça très intéressant, cette forme de bonheur aussi dans chaque chose, dans chaque petite chose. Et ça m'a
fait... Mais vous avez raison, le Maori, j'en ai parlé un tout petit peu dans la conclusion,
oui.
mais il n'y a pas d'historiens qui ont consacré un chapitre entier
oui.
dans l'ouvrage,
oui.
mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ce qu'on voit chez Maori, on le retrouve beaucoup, par exemple, chez les Touaregs. Le fait d'apprécier simplement une soirée éclairée par la lune, les étoffes, dont
tout à
on connaît
fait.
La
oui.
qualité de l'étoffe bleue des Touaregs, le fait
oui.
de monter sur son cheval, et il y a des choses extrêmement concrètes, et vous disiez un buisson dans le désert,
oui.
vous imaginez l'importance de
oui.
chaque chose lorsqu'on
Bien
est
sûr.
Dans le désert, il y a un minimalisme, oui. et puis aussi le bonheur de la liberté, le nomadisme, oui. Ce chapitre peut-être sur les Touaregs vous intéressera peut-être particulièrement parce que vous y retrouverez, je pense, des choses, des choses de ce que vous, dites de, des Maoris.
Bien évidemment, dans le livre, on dit qu'il n'y a pas de bonheur sans amour. Forcément. Forcément. C'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose de très profond, mais ça peut être l'amour de l'autre et l'amour de la vie aussi, d'une façon générale.
Aussi. Oui, on le voit par exemple du chapitre sur, sur l'Égypte ancienne,
oui,
où l'amour est fondamental,
chez les Égyptiens.
Oui. C'était absolument nécessaire, impossible, rien n'est possible sans amour.
Oui.
On le voit du panthéon égyptien comme de la vie quotidienne des Égyptiens, un amour qui, pour les Égyptiens, doit se concrétiser par... par le mariage. On n'est pas heureux véritablement si l'on est seul. Le couple et la réussite du couple est chez les Égyptiens quelque chose de fondamental.
Fondamental.
Le texte
oui.
sur les Égyptiens que l'on doit à une grande spécialiste de l'Égypte qui est Florence Marouéjean.
Florence Marouéjean.
C'est un des chapitres que
c'est moi, très intéressant.
J'ai
oui.
L'un des chapitres que j'ai préféré,
oui.
sans vouloir faire un jeu évidemment à tous mes collaborateurs.
C'est vrai. Alors, une question aussi tout au long du livre, au fur et à mesure de mon voyage, parce que finalement c'est un voyage sur la barque du bonheur, sur le bateau du bonheur. Finalement, le bonheur n'est-il pas subjectif?
Oui, le bonheur il dépend de nous-mêmes, de notre capacité aussi, de circonstances évidemment extérieures, mais aussi, ce sont les stoïciens qui nous le disent, de notre capacité à dépasser ces circonstances extérieures, à ne pas dépendre de cette météo extérieure pour se créer un climat intérieur propice au bonheur. Et ça, on le retrouve évidemment chez les stoïciens.
Oui. Alors,
dans d'autres spiritualités.
Oui. Dans l'hédonisme, il y a donc la part de bonheur, c'est-à-dire le fait de partager, de faire des choses par soi-même, de se réaliser. Est-ce qu'on ne pourrait pas associer les deux, c'est-à-dire le bonheur et l'hédonisme, que l'un et l'autre soient synonymes de l'un et de l'autre?
Oui, c'est vrai qu'il y a deux traditions. Lorsque l'on pense au bonheur, l'hédonisme, qui est la recherche de plaisir, l'évitement des souffrances, chez Aristide de Cyrène, mais également le démonisme. Le démonisme qui est plutôt théorisé par les stoïciens et les épicuriens, qui est plutôt la recherche de bonheur, pas seulement de plaisir, même si le plaisir est intégré au bonheur. Mais les épicuriens nous disent attention à sélectionner les plaisirs qui ne vont pas nous entraîner dans une roue sans fin de recherche qui serait plutôt générateur de frustration perpétuelle. Donc, peut-être... avoir un équilibre, une sorte d'hédonisme raisonné qui pourrait effectivement être l'équilibre de vie parfait qui nous permettrait, c'est sans doute l'enjeu que l'on arrive à lire dans l'ouvrage, c'est d'un bonheur durable parce que c'est vrai qu'on peut être, on peut se sentir heureux le lundi, un petit peu moins le mardi, être un peu ballotté au gré des flots,
en fonction des événements, en fonction des événements bien sûr aussi.
Mais oui, d'événements. Je me sens moins heureux parce que peut-être le temps qu'il fait, peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être. Donc l'enjeu est peut-être d'arriver à se créer un climat intérieur qui garantisse une certaine ataraxie, une certaine équanimité, le fait d'être d'humeur égale, alors pas seulement d'apparence, mais véritablement de se sentir heureux en tout lieu, en tout temps, sans finalement être ballotté par les événements extérieurs. C'est une difficulté, évidemment, mais c'est dire que le bonheur est une sagesse. Et là, il y a peut-être quelque chose,
complètement.
Une sorte de préjugé qu'il faut lever. Il n'y a pas d'imbécile heureux. contrairement à ce que disait Flaubert, pour être heureux, il faut être vraiment sot, il faut être inconscient, ne pas voir les problèmes, etc. Non, pour être heureux, il faut quand même être sacrément sage et sacrément parfois courageux.
C'est vrai. Mais tout au long du livre, moi j'ai aimé m'attacher justement, on en parlait tout à l'heure, à cette Chine ancienne, à l'Antiquité, aux temps anciens, vous voyez. Alors que aujourd'hui, je trouve que dans ce monde, alors ça n'engage que moi, bien sûr, c'est ma réflexion par rapport à la lecture, que dans ce monde finalement, on ne cherche pas le bonheur dans la simplicité, on le cherche dans la complexité. Alors que, on parlait de Cro-Magnon, aller couper les herbes, faire le feu, nourrir sa famille. On parlait des Égyptiens, on parlait des Maoris, les Touaregs, tout ça. J'ai l'impression que c'était des plaisirs simples, le mariage, un buisson. Les Égyptiens aussi, c'était aussi trouver le bonheur dans l'au-delà. On partait avec ses richesses, mais c'était pas forcément pour partir avec ses richesses. C'était aussi pour aller vers aussi un monde meilleur. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une forme de course à l'échalote, si je peux me permettre, et que c'est un vain mot. Vous voyez ma réflexion, oui. Voilà. Alors c'est peut-être, je suis pourtant d'un caractère terriblement optimiste, mais oui, ça me...
Oui, parce que effectivement, vous avez raison, la course à l'échalote, elle est technologique. Oui. Vous avez dans les mains des outils technologiques qui cherche à vous en mettre plein la vue. Les réseaux sociaux, où vous, ouais. À chaque message que vous envoyez, vous avez une sorte de shoot de bonheur, entre guillemets, là, avec tous les guillemets possibles, oui. De savoir que ça a été partagé par tant de personnes. Ouais. On cherche vraiment dans les laboratoires de ces fameux GAFA, ces entreprises numériques, mm-hmm. à créer votre bonheur numérique. Pour évidemment vous vendre des produits. Et puis, il y a tous les progrès de la science dans le domaine de le transhumanisme. On sait très bien que dans quelques années, si vous aimez le chocolat, vous l'aimerez encore plus parce que vous aurez des capteurs sur la langue pour augmenter votre goût. Oui. Si vous aimez le vent dans vos cheveux, lorsque vous faites du vélo ou de la moto pour les autres, eh bien, ça sera encore plus puissant parce qu'on vous mettra aussi la des capteurs. On va augmenter la somme de nos plaisirs. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'on sera plus heureux ?
Ça.
Sans doute pas. Mmh. Surtout si on prend l'habitude, je ne veux pas m'immiscer dans un débat public actuel, de se confiner pour tout. Un drame sanitaire. Mais demain, si les questions de climat ne s'améliorent pas, si la question des gaz à effet de serre continue à être prégnante, eh bien, on va nous dire, les jours impairs, vous restez chez vous. Les jours pairs, vous pouvez sortir. Est-ce qu'on se prépare là à un monde heureux ? Le monde heureux n'est pas un monde qui peut se concevoir sans relation.
Tout à fait.
L'important, on le voit de toutes les civilisations, c'est qu'il n'y a pas de bonheur solitaire. Tous les bonheurs sont, j'allais presque le dire d'un jeu de mots, solidaires.
Solidaires.
Ensemble. Oui. Regardez les plus heureux pendant la période du confinement. Ce sont ceux qui étaient le plus en plainte parfois, mais ils étaient heureux parce que si vous connaissez les soignants, si vous entendez parler les soignants, alors pas quand on les interroge nécessairement à la télévision, mais ils vous disent, moi j'étais heureux de me lever le matin, de me rendre utile.
Utile, complètement.
Il y a une des leçons quand même de l'ouvrage, c'est pour être heureux, il faut se rendre utile. Il faut se rendre utile à l'autre.
Oui.
Et quand vous savez que vous êtes utile, ça vous donne quand même
une raison de vivre aussi.
D'être
oui, et une raison de vivre, une force d'exister en disant je suis utile, donc j'existe. Voilà.
C'est un petit peu la distinction qu'on faisait tout à l'heure entre l'hédonisme. Hein, je ne vois pas tellement le sens de la vie, alors je vais chercher quand même le plaisir tel qu'il arrive.
T'as fait.
Et puis le démonisme, où j'ai trouvé le sens de la vie.
Oui.
Et là, mon bonheur, il est d'une qualité différente, une qualité particulière.
Pour conclure, François Durpaire, êtes-vous un homme heureux ?
Oui, alors on va conclure vite, alors, parce que oui, je suis un homme heureux, et tous les jours. C'est ça le plus important, je ne suis pas juste heureux aujourd'hui, mais évidemment, heureux dans le partage, plus heureux un peu plus maintenant, dans la discussion, dans l'échange.
Oui, moi aussi.
C'est quelque chose peut-être, voilà, c'est peut-être la leçon fondamentale, la relation, être en relation avec l'autre, c'est la chose peut-être la plus fondamentale.
En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été que du bonheur de vous recevoir
pour ce
livre, l'histoire mondiale du bonheur aux éditions du Cherche Midi. François Durpaire, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Quels sont les projets, le devenir là, prochainement de François Durpaire?
C'est le deuxième, Alors là, il y a un ouvrage qui vient de sortir parce que vous savez que j'ai une autre, une de mes spécialités, c'est les États-Unis.
Et là, je sais bien.
Je viens de ressortir les États-Unis pour les nuls. Vous savez cette collection
chez
First.
Oui.
Donc je ressortis cet ouvrage. Et puis, puis un autre ouvrage, alors, beaucoup plus tardif, on l'attend pour septembre prochain. Vous voyez, j'ai encore un petit peu le temps. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un ouvrage seul, je le fais avec un dessinateur.
Oui.
C'est une nouvelle BD. Hein,
oui,
j'avais
D'accord.
eu la chance avec la BD La Présidente de rencontrer un public très large.
Oui.
Et donc là, une nouvelle BD. Qui sort en septembre prochain.
D'accord. En tout cas, nul doute qu'on vous verra sur les différentes chaînes et radios, parce que, bien évidemment, tout le monde le sait, c'est bientôt les élections américaines, et sans doute que nous aurons besoin de votre regard et de vos analyses toujours pointues et toujours bien éclairées. Merci, François Durpaire.
Merci à vous, Claudine. Merci beaucoup.
Je vous dis à une très prochaine fois, en tout cas. Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir. Merci, au revoir.